La table des gourmands. Jean-Michel.
Avec aujourd'hui Elisa Chouette du Sapin, elle présente son deuxième livre, Les billes du pachinko, aux éditions Zoé, il faut le signaler également. C'est l'histoire de Claire, une femme sud-coréenne qui va retrouver ses grands-parents qui sont exilés au Japon à cause de la situation de guerre en Corée. Ça fait 50 ans qu'ils sont au Japon, mais le but pour Claire est de les faire revenir dans leur pays d'origine. Un sujet qui est forcément complexe à aborder pour vous, Elisa.
Qui est très complexe et émotionnel aussi pour moi, à tel point que j'ai eu beaucoup de difficultés à écrire cette histoire. L'histoire a pris des formes très différentes au fur et à mesure que j'écrivais, pendant des années d'ailleurs. Aujourd'hui encore, je ne suis pas du tout certaine d'avoir vraiment cerné le sujet comme ce que j'aurais voulu faire, et c'est peut-être ce qui me pousse aussi à continuer.
Il y a quelque chose de très personnel, des questions que vous vous posez. Il y a des buts que vous essayez d'atteindre aussi dans votre vie.
Par rapport à l'écriture ou au niveau de la question personnelle, du but, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui effectivement est présent, mais au moment même de l'acte d'écrire, dans le sens où c'est un rapport à la langue. On parle de gourmandise, ça peut être autant la nourriture que justement les mots en fait, qui passent aussi par cette langue. Et pour moi, cette histoire, elle est partie du sentiment très fort que j'ai de ne pas vraiment avoir le droit d'écrire des choses qui se passent en Asie en français. Parce que je parlais vraiment bien coréen quand j'étais plus jeune. Petit à petit, je l'ai perdu, je l'ai réappris après. Mais j'ai un rapport du coup très compliqué à cette langue qui est aussi ma langue maternelle.
Vous aviez peur de perdre quelque chose qui faisait partie de votre identité, qui faisait partie de votre culture, de votre racine, de vos racines justement?
J'avais peur ou j'ai perdu d'une certaine manière quelque chose qui est une part de moi. Parce que et j'avais peur de perdre ça parce que c'était la seule porte d'accès avec la nourriture que je mangeais en Europe vers la Corée du Sud, oui.
Il y a le rapport à l'exil et à la terre maternelle, hein. Il y a quelque chose de très très fort. Aussi, l'envie de transmettre, j'allais même dire pour plus tard, parce que peut-être qu'un jour, il y aura une autre génération. Et puis, il y a aussi ce besoin, cette envie de transmettre clairement.
L'envie de transmettre peut-être moins, dans le sens où j'ai pas spécialement confiance en ce que j'écris, ni le besoin absolu de le faire publier. Je crois que c'est avant tout le besoin d'exprimer pour moi quelque chose qui vient de loin en arrière, peut-être même justement de cette question de la filiation, dans le sens où chaque être porte l'histoire de sa famille. Et puis pour moi, c'est une histoire qui est éclatée un peu partout et j'ai pas vraiment le sentiment d'avoir un ancrage quelque part. Et l'écriture, ça me permet, je pense, d'essayer de circonscrire quelque chose qui petit à petit, texte après texte, pose des pierres de quelque chose de bien plus solide que moi-même. Et dans ce sens-là, oui, alors si c'est vrai que si ça peut être, si ça peut rester pour le futur, ce sera quelque chose de merveilleux ou pas, voilà, j'en sais rien. Mais c'est vrai que je réfléchis pas vraiment dans le futur au moment de l'écriture, c'est plus une introspection au mieux sur le moment, mais sinon beaucoup plus vers le passé ou alors dans un monde imaginaire qui lui n'a pas de temporalité.
Lorsque vous aviez sorti Hiver à Sokcho, vous disiez que pour vous, sortir un second livre serait un défi lourd à relever. Et dans la presse, vous dites il y a quelque temps que ce deuxième roman, Les billes du pachinko, vous l'avez écrit 20 fois. Vous avez connu des moments difficiles émotionnellement au moment de l'écriture?
Disons que ça n'a pas été évident à différents niveaux. Au départ, j'ai commencé à écrire Les billes du pachinko avant même que Hiver à Sokcho ne paraisse, avant même que je l'envoie à un éditeur. Donc, c'était un projet en cours depuis vraiment longtemps. Et déjà, à ce moment-là, j'avais des difficultés à l'écrire parce que je savais que ça devait se passer au Japon, autour de l'histoire de la diaspora coréenne là-bas. Mais je ne savais pas du tout quel point de vue prendre. Je me sentais illégitime à l'idée de mettre en scène des Japonais, Et si je parlais de Coréen sur place, j'avais l'impression que mon regard était trop biaisé. Petit à petit, j'ai trouvé ce point de vue suisse, voilà, d'une femme qui vient de la Suisse, qui me permettait aussi de parler d'un endroit qui m'est cher. Mais après, c'est vrai que quand mon premier roman a paru, il y a eu toute une effervescence autour de ça et peut-être des attentes.
Ce qui a donné cette légitimité ?
Pardon ?
Ce qui a donné cette légitimité ? Ou est-ce que vous
non,
vous posez encore la question ?
Non, pas du tout. Ça m'a... Je pense que la reconnaissance critique et publique que j'ai eu la chance d'avoir grâce à ce premier roman m'a, dans un premier temps, au contraire, complètement bloquée dans l'écriture. Je me regardais écrire, je ne savais pas si je faisais exprès de faire la même chose ou alors pas du tout. Ce qui fait que j'ai simplement arrêté d'écrire pendant plusieurs mois. Et ensuite, avec la chance aussi immense que j'ai eue de pouvoir passer 6 mois à New York, là, j'ai pu complètement oublier, en fait, toutes ces questions, en fait, de la réception d'un texte pour me replonger dans ce corps à corps, littéralement, avec les mots, avec la langue, et retrouver une forme de liberté, mais qui n'est pas du tout sereine, non, c'est vrai, mais bon, ça, c'est une histoire entre moi et moi, qui n'a rien à voir avec le public.
Lorsque on pense au résumé du livre, je me disais, cette fille qui va aller voir ses grands-parents qui sont à Tokyo et qui a envie de les ramener dans leur pays d'origine, je me disais, mais est-ce qu'il y a pour Elisa Chua du Sapin la volonté d'écrire un rêve pour qu'il devienne un jour réalité ?
Je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes dans le fait d'écrire, déjà dans le fait de pouvoir créer des voix qui ne sont pas vraiment les siennes, de pouvoir se projeter, de pouvoir inventer des personnages dans lesquels peut-être les gens ensuite peuvent se reconnaître aussi. Pour moi, c'est clair qu'il y a une forme de tentative de me rapprocher de quelque chose dont paradoxalement, je suis certaine que ça n'arrivera jamais. Je suis à peu près certaine que je ne serai jamais absolument satisfaite d'un texte et d'une certaine manière, je me dis tant mieux parce que c'est ce qui peut-être me pousse à continuer ou à essayer de chercher d'autres moyens de dire quelque chose. En ce qui concerne l'histoire en elle-même, ce retour à une forme de terre maternelle ou à quelque chose qui peut être une forme de berceau, là aussi j'ai l'impression que c'est quelque chose où je tourne autour du pot. Dans Il verra quelque chose, je me suis glissée dans la peau d'une fille qui serait née en Corée du Sud et qui ne connaît pas vraiment l'Europe, alors que là c'est tout le contraire, c'est une fille qui vient de la Suisse, qui va au Japon pour essayer de ramener ses grands-parents en Corée. Mais on ne voit jamais cette Corée, elle reste un horizon lointain derrière l'océan. Et pour moi, c'est aussi une image de ce que j'essaie d'atteindre avec l'écriture.
Vous vous glissez dans la peau de cette jeune fille. En même temps, vous avez ce combat entre est-ce que je suis cette jeune fille ou est-ce que je ne la suis pas ? Est-ce que parfois, elle pense exactement comme moi ou parfois, c'est réellement un personnage qui n'est pas du tout proche de moi ?
Je dirais même que c'est plutôt pratiquement jamais un personnage. En tout cas, c'est pas du tout un personnage dans lequel je me reconnais, ni la narratrice du premier livre, ni le deuxième. Ou alors, disons que s'il y a de moi, ça m'étonne énormément, parce que quand je relis, après, ce sont des voix qui au contraire m'agacent, ou alors que je comprends même pas vraiment moi-même. Si je dois y mettre du mien, c'est dans vraiment tous les personnages, en fait. Et même des fois, personnellement, je peux me reconnaître dans un personnage très, très secondaire ou alors un personnage masculin. Je trouve que ça n'a pas grand-chose à voir avec l'identité, en fait, de l'auteur. Et en ça, il y a quelque chose d'un peu magique, c'est vrai.